Bon lundi matin de la journée de l'amour. Max, comment ça va?
Joyeux Saint-Valentin, mon GF.
Joyeux Saint-Valentin. C'est la journée de l'amour quand même. Fait qu'on peut dire aux gens qu'on aime, pas juste à notre blonde, pas juste à notre chum, juste aux gens autour de nous. Hein, mais c'est important quand même de... Ceux qui ont des blondes, là, hein? Oubliez la peau aujourd'hui, ouais, donnez du love. Max, gros week-end de sport, surtout hier soir, NFL time, Super Bowl time. Comment tu as apprécié ta soirée?
Belle soirée, gros show du halftime, j'étais bien heureux. C'est des artistes que j'aimais beaucoup. Ça a été un bon match de football, manger des nachos, des ailes en masse. Puis on reçoit un invité qui est pas mal connecté aussi, qui aime pas mal le football. Ozoué Pelé, comment ça va?
Salut, guys, en forme?
Hey.
Ouais, toi? Ça va bien. Comment t'as aimé ta soirée?
Super. J'ai passé ça avec des chums de balle. Tellement des chums que vous connaissez aussi. On a eu du plaisir. On a eu un bon match. C'était serré. C'est ça qu'on veut au Super Bowl. Même si c'est pas les équipes que tu voulais peut-être au début de l'année, là. Mais je pense que c'était vraiment cool. Les deux quarterbacks ont été bons. La défensive, comme Max a dit, le halftime show a été incroyable. Je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Surtout que ça a commencé plus tôt que d'habitude. Fait qu'on aime ça que c'est ça sur le West Coast. Ouais. Sinon, les années auparavant, des fois, là, on se couchait à 2h du matin quasiment. Fait que c'était vraiment bon.
C'est le fun parce qu'on avait, tu sais, on souvent eu Tom Brady dans les dernières années. Pas que je m'en plaignais, mais c'est le fun d'avoir des nouvelles équipes. Des fois, je pense que ça vient moins chercher le monde. Le monde sont heureux de voir des nouvelles équipes. Fait que c'est rafraîchissant quand même hier.
Ouais.
Ozoué, nouvelle fonction avec l'ABC depuis officiellement, là, parce que je sais que tu étais quand même dans l'entourage de l'ABC régulièrement, mais officiellement, tu as des nouvelles fonctions. Entraîneur pour la saison hivernale. Parle-moi donc de ça. Là, comment ça se passe depuis quelques semaines?
Ben, c'est certain que lorsqu'on a eu là, le petit confinement encore là, qu'on a eu pendant le mois de décembre, là, un petit peu le mois de janvier, c'était un petit peu plus difficile, pas juste pour les entraîneurs, mais surtout pour les joueurs. T'sais, c'est dur de trouver des places, pas tous les joueurs là, qui ont un sous-sol où est-ce qu'ils peuvent frapper des balles au moins sur un net ou on s'entend que frapper à moins 40 dehors, ça se fait pas non plus. Là. On a eu un mois de janvier quand même assez froid. Donc de ce côté-là, ça a été un peu plus difficile, mais ça nous a donné aussi la chance de se préparer un peu là, lorsque les gars ont commencé à revenir tranquillement, pas vite. Ça prend beaucoup de communication. Moi, je suis basé à Québec. Donc, c'est certain que les gars là, m'envoient beaucoup de vidéos. Je parle beaucoup aux autres entraîneurs aussi, là, quand même. Quotidiennement, on a quand même beaucoup de meetings. T'sais, Max l'a vécu. Là. Il faut qu'il y ait de la communication de tout le monde, justement, là, pour essayer de voir les gars, essayer de... Tout ce qu'on fait à chaque fois qu'on coach, on le fait juste pour les jeunes. Là. Je veux dire, nous, on joue plus. Là. On a plus d'avenir de ce côté-là. Donc... c'est certain qu'on trouve les meilleures façons là, de s'arranger pour essayer là, d'amener nos jeunes là, à un autre niveau. Mais maintenant que bon, tout va recommencer tranquillement, pas vite, là, je pense que ça va être un peu plus facile. Pas juste pour nous, mais comme je dis, là, pour les joueurs aussi.
Puis ta responsabilité, est-ce que ça s'adresse uniquement au bâton ou tu as d'autres tâches à faire avec l'ABC?
Ben, pour l'instant, ça s'en va. C'est juste le bâton. C'est certain que je viens aider un petit peu là, de temps en temps là, du côté receveur parce que bon, c'est ma position numéro un là, depuis quelques années. Mais avec le temps, là, puis en étant à distance, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile. Mais c'est certain là, qu'à chaque fois qu'on vient parler un petit peu de receveur, puis même avec les lanceurs aussi, là, de temps en temps, je suis capable de donner mon opinion, mais c'est surtout là, avec le bâton.
Cool. En fin de semaine, il y avait un événement à Québec, justement, parce que tu es dans ce coin-là, tu l'as mentionné, au Dôme, un try-out pour l'ABC. En fait, c'est des joueurs qui ne sont pas avec l'ABC, principalement des sports-études. Raconte-moi ça, c'était samedi, comment ça s'est passé?
Bien, premièrement, je me trouve chanceux parce qu'on a, on se rend pas compte, je ne sais pas, là, la première fois là, que tu es venu au Dôme, ou Max, la première fois que tu es venu, pour nous, c'est comme normal. Pour moi, je veux dire, je suis au Dôme à tous les jours, puis... T'sais, nous, on est rentrés, j'arrive là, mais là, les jeunes, il y a plein de jeunes que je connaissais pas, là, genre plein, je te dirais 95% des jeunes qui étaient là, j'avais aucune idée c'était qui. Puis, ils entendaient parler, oh mon Dieu, mais c'est donc bien nice. Puis là, un demande à l'autre, ben là, on peut-tu frapper les balles, on veut pas pogner une lumière, on peut-tu lancer sur le mur, tu sais. Puis là, bien sûr, là, Jason, puis Doom Walsh, puis tout le monde leur expliquait qu'écoutez, tu peux faire ce que tu veux ici, là. Tu peux frapper, varger sur le dôme, il y a rien de dangereux. Fait que c'est surtout voir la réaction des jeunes qui étaient vraiment cool, tu sais, qui étaient vraiment comme oh my god. Puis là, ben, on est rendu avec une salle de musculation juste en dessous du stade. Fait que tu sais, on est allé montrer ça aux jeunes aussi. Fait que c'était vraiment, oui, c'était le fun de voir voir plein de jeunes, justement. Tu sais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, puis j'avais des try-outs, là. Je pense que j'avais le cœur, là, qui me débattait pendant au moins une heure et demie de temps. C'est juste attraper un roulant. Je savais que j'allais l'attraper, mais écoute, c'était stressant, là. Ah ouais. Si je voulais, mais oui, tu regardes partout à gauche et à droite, tu veux lancer fort, tu veux courir vite, tu veux une autre ronde, tu veux une balle de plus parce que t'as manqué la dernière. Fait que, je me rappelais à quel point que c'est stressant pour un jeune, tu sais, même si c'est juste pour un petit try-out, puis à quel point que c'est le fun, que comment les jeunes de chaque sport-études, puis même, il y avait quelques jeunes là, qui n'étaient pas au sport-études non plus, de se voir entre eux autres, tu sais, parce que c'est facile t'entraîner tout le temps avec les mêmes gars.
Ouais.
Dans ton sport-études, mais tu vois pas nécessairement, bon, t'es rendu à quel niveau comparé au meilleur. Un exemple, un petit jeune de Desmortagne qui se compare à un gars de Québec ou un gars de Montréal ou un gars de Sherbrooke. Fait que c'était vraiment hot là, de voir tout ça. C'était vraiment cool de pouvoir comparer les jeunes. Puis, comme je dis, on est chanceux au Dôme d'avoir de la place. On était capable de faire un BP pendant qu'il y avait des gars dans les cages. Les gars faisaient leur bullpen, on faisait le 60 verts d'un autre côté. Fait que, tu sais, c'est... Pour nous autres, là, ça devient tellement plus facile de pouvoir faire des try-outs comme ça.
Combien de joueurs avez-vous reçu? Puis as-tu eu des belles surprises aussi?
Écoute, il y en avait quand même une bonne gang. C'est sûr qu'il y en avait une couple qui pouvait pas être là. Merci au COVID, qui était en isolement et tout. Mais c'est des jeunes qui vont pouvoir revenir cette semaine parce qu'on fait une première coupure, dans le fond, après le try-out là, de samedi. Puis on va en avoir un autre cette semaine encore ici à Québec, samedi, pour voir les meilleurs qu'on a retenus. Puis ainsi, pouvoir les comparer vraiment un peu plus entre eux autres. Mm-hmm. Puis oui, j'ai des surprises.
Ah ouais? Écoute,
il y a des... Ah, mais tellement... Je suis tellement, mais tellement surpris par, un, la grandeur des jeunes. Écoute, je suis pas petit, là. Je mesure 6 pieds, puis je pèse 210 livres, là. Il y avait des jeunes de 15 ans. Je suis comme, sérieux, tu as quel âge, toi? Puis le petit jeune me répond, oh, j'ai 15 ans. What? moi, 15 ans, là. Hey, boy, j'étais tellement pas prêt à ça. Tu sais, j'ai vu des gars qui frappent la balle fort. Tu sais, tu vois que les sports-études partout au Québec, là, toutes les sports-études, ça s'améliore tellement. C'était vraiment le fun à voir. Sincèrement, puis tu vois que les jeunes aussi sont fiers de porter leur uniforme ou leur vêtement de leur sport-études. En tant que tel, c'est cool de voir chaque sport-études ici avec des nouveaux vêtements. Là, moi, j'aimais ça, là, quand je suis au sport-études, d'avoir un nouveau chandail et tout. Fait que j'ai trouvé ça cool. Puis tous les jeunes étaient mélangés, des gars se parlaient, des gars qui se connaissaient parce qu'ils ont joué avec des équipes du Québec auparavant, que là, ça faisait peut-être un an ou deux que c'était pas vu. Puis là, boum, ils se revoient. Fait que pour vrai, là, le talent est, peut-être que je me trompe, là, mais il est tellement meilleur de ce que c'était avant, dans le sens que c'est fou comment il y a des bons jeunes. C'est fou comment il y a des jeunes qui sont bons. Puis écoute, il y avait des lanceurs, là. Je nommerai pas de nom, là, mais il y en avait un qui, pour moi, il avait l'air d'un joueur quasiment des majeurs. Bang, ça lançait des prises, la balle bouge. Il y a des beaux bats, là, qui ont frappé des balles en haut de 90 000 à l'heure à 15 ans, là. Comme non, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Fait que c'est cool de voir ça. Puis, tu sais, c'est des jeunes qui s'essayent pour l'OBC, là, pas qui sont avec l'OBC. Mm-hmm. Fait qu'imaginez, tu veux dire, Max, comme je te dis, tu l'as vécu, là, imaginez à quel point nos jeunes sont tellement meilleurs. Alors, j'ai trouvé ça incroyable.
Tu parlais tantôt de la première fois au Dôme. Moi, je me rappelle très bien de ma première fois au Dôme. C'est super impressionnant parce que j'ai fait une entrevue avec un certain Josué Pelé à ma première visite au Dôme. Fait que moi, j'étais super impressionné. Max, t'en souviens-tu, toi, ta première visite?
Ouais, c'était probablement pour un camp d'entraînement de l'ABC. C'est sûr que c'était impressionnant, mais JP me cassait les oreilles avec ça depuis à peu près 3 mois. Fait que... J'ai fait abstraction de tout, puis j'ai été venu faire ma pratique, fait que je n'ai pas d'entendre parler.
J'ai envie de vous faire dévier sur le dôme, justement, parce que je vois Jean Allard là, qui parle que Québec, Dame le Pion à Montréal, là, il parle de ça sur Facebook au niveau du dôme, tout ça. Puis, tu sais, je sais qu'on a déjà parlé à quelques reprises, mais Osoué, je veux juste que tu parles du dôme, les gens qui ont jamais été là, parce que on a besoin de ça, je pense. On a besoin d'un peu plus là, à Montréal, dans la région de Montréal. En tout cas, là, c'est quelque chose qui aiderait énormément. Puis je pense que les gens ne comprennent peut-être pas ou les décideurs ne comprennent pas à quel point c'est impressionnant, ce dôme-là, puis à quel point c'est nécessaire en fait pour le sport, pas juste pour le baseball, là, pour d'autres sports aussi l'hiver. Là.
Bien, écoutez, juste, je vais commencer un petit peu par l'envers, là, mais le dôme, là, ici à Québec, n'existe. Bien, je veux dire, il ne sert pas juste au baseball. Là. Nous, dès qu'on finit notre journée, là, premièrement, c'est la première fois qu'on a pas à faire nos lignes. Je m'explique, nos lignes de fausse balle puis nos boîtes de frappeurs et tout. Je veux dire, c'est la première fois que les autres sports s'ajustent à nous. Donc, le soccer doit faire leur ligne, le frisbee doit faire leur ligne parce que après qu'on ait fini nos pratiques, là, je veux dire, le dôme est rempli jusqu'à quasiment à minuit à tous les jours. Là. Mm. Il y a des ligues de softball, il y a des ligues de soccer, il y a du frisbee, il y a même du monde qui écoute des films là-dedans. C'est drôle à dire, nos catchers sont capables d'attraper des ballons. C'est, je me rappelle encore, nos catchers avaient hâte d'aller en Floride parce que c'était la première fois depuis, mettons, le mois de septembre qu'ils étaient capables d'attraper des ballons, puis c'était difficile là, pour eux autres quand ils arrivaient en Floride, le soleil, puis regarder en haut. Fait que, tu sais, on est capable de faire tellement plein de choses. Tu attrapes des roulants sur une vraie surface, une surface synthétique. Tu peux frapper des balles sans avoir peur, puis frapper le dôme. Tu sais, nous autres, avec le programme collégial, on joue un match par semaine, on joue le jeudi. Puis peut-être la semaine prochaine, on va commencer à jouer deux matchs par semaine. Donc, on est chanceux, on est vraiment capable de faire, de récréer des choses, des matchs, des situations de match sans nécessairement avoir des restrictions. On a des cages aussi à l'intérieur. Donc, pendant que tu fais un match, tu peux faire de la cage. Donc, c'est vraiment, écoute, on a des prises aussi là, électriques un petit peu partout. Fait que, on peut mettre des lance-balles un petit peu partout. On peut se filmer aussi en même temps. Tu peux charger tes choses. Tu sais, c'est vraiment là un environnement fait pour le baseball. Puis ensuite de ça, les autres sports s'ajustent à nous. Donc, c'est vraiment un investissement bien, tellement bien calculé. Puis je veux dire, le sport étude, on a loué le stade jusqu'à temps là, qu'on change la toile, puis il tombe, puis on en passe un autre. Là. Donc, je crois qu'il doit en avoir, là, comme tu dis, là, pas juste à Montréal, là, un ça arrive sud, un à Laval, plus haut dans le nord. Tu sais, il doit en avoir partout. Là. C'est tellement bien fait. Puis je pense que le futur, comme je dis, pas juste pour le baseball, mais tu sais, tu le vois au tennis, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui joue dehors au tennis, même l'été, là, tu sais, ça va à l'intérieur. Je sais que le golf s'en va là-dedans aussi. Le football, on le voit avec les équipes dans la NFL, tout le monde se dote d'un don aussi. Alors, je pense que c'est certain que, bon, c'est pas toi puis moi qui peux acheter un dôme, là. Mais je pense que le monde qui ont de l'argent, je pense qu'ils pourraient peut-être là, voir de ce côté-là, comme je dis, surtout à Montréal, où est-ce que je pense que... Mais la région de Montréal, là, le talent puis les joueurs, il y en a vraiment beaucoup. Je pense que ça aiderait tout le monde.
Ouais, la grosse problématique dans la ville de Montréal, c'est que certains arrondissements refusent d'avoir un dôme au niveau esthétique dans leur ville. Fait que ça, c'est un gros désavantage du fait que ça va prendre une bâtisse. Là, quand on parle d'une bâtisse, les coûts sont triplés, quadruplés versus un dôme. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ça prend une volonté politique qu'on n'a pas à Montréal présentement. Fait que c'est... Je vais toucher du bois, mais j'espère qu'on est pas si loin que ça, mais je pense qu'on est loin d'avoir quelque chose qui est crédible sur l'île de Montréal. Ça va être compliqué, surtout si on est ralenti au niveau de la politique. Fait que ça va prendre un gros changement ou ça va prendre quelqu'un avec les poches creuses qui va décider de dire, bon, qu'est-ce que vous avez besoin de baseball? On va vous aider un petit peu. C'est là qu'on est rendu. Osoué, je vais t'amener sur un sujet. Tu as joué dans les ligues mineures du baseball majeur. Là, on est en lockout. Un des trucs dans le lockout qui est important, c'est le traitement des joueurs dans les ligues mineures. Ma première question pour toi, c'est à quel point que c'est difficile d'être dans les ligues mineures puis que ton salaire est très bas? Le monde pense souvent que c'est tu roules en Cadillac quand tu es dans les ligues mineures, mais il oublie qu'en réalité, là, tu vis dans un hôtel qu'il faut que tu payes, que tu manges du beurre de peanut avec des toasts, puis que si t'es chanceux, si t'as un peu d'argent, tu mets de la confiture dessus, puis que tu travailles au moins 8 à 10 heures par jour dans les centres d'entraînement. Fait que raconte-nous un petit peu ta carrière puis comment que ça se passe dans les ligues mineures, s'il te plaît.
Ben, premièrement, avant de commencer, je veux juste vraiment pas faire peur à tous les joueurs qui veulent se rendre dans les majeures, des jeunes Québécois qui vont m'écouter puis qui vont comme faire ben j'ai pas envie de faire ça là, c'est vraiment de la merde, tu sais. Ben mais je vais être très honnête. C'est rendu mieux de ce que c'était, puis quand je parle de mieux là, je parle ouais. Dans mon temps, je veux dire t'étais payé vraiment moins que le salaire minimum là. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai toujours habité avec minimum 4-5 gars là, dans un appart à une ou deux chambres. Tu sais, on avait nos lits dans le salon, deux gars dans une chambre. Tu sais, le but n'était pas nécessairement d'être confortable, mais de sauver de l'argent parce que c'était très difficile. Tu sais, les gars qui vivaient mieux, c'était les gars qui avaient des bonnies de signature là, au-delà d'un million, qui pouvaient au moins se gâter un petit peu. T'avais pas nécessairement une voiture, fait qu'il faut que tu te promènes avec le gars qui en a une, puis tu rentres 4-5 dans la voiture. Pendant le camp d'entraînement, c'est très difficile, c'est à tous les jours, tu te réveilles super tôt le matin. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les équipes qui payaient non plus pour ton housing, là, donc pour ton hébergement. Il y a des équipes au moins qui trouvaient des familles où est-ce que tu pouvais rester. Tu t'entraînais, lorsque tu allais sur la route, tu t'entraînais dans des World Gym un petit peu là, partout aux États-Unis, puis c'était pas non plus les meilleurs. On faisait avec ce qu'on pouvait, puis tu sais, souvent aussi, l'entraîneur en chef avait les mains un petit peu attachées, là, dans le sens que il fallait qu'il fasse jouer les joueurs que l'organisation voulait aussi. Donc, c'était vraiment, mais vraiment, vraiment pas facile. C'est sûr que tu essayais d'enlever ça de ta tête parce que c'était pareil pour tout le monde. Là. C'était pareil pour l'équipe contre qui tu jouais, contre l'équipe adverse. Alors, tu te disais, bon, gars, je dois continuer comme ça, mais c'est certain que c'est difficile. Beaucoup de personnes parlent que oh, des majeurs, pourtant, les autres, ils jouent à tous les jours et tout. Mais ils voyagent en avion, ils ont de la bouffe. A1, ils ont 3-4 trainers, ils ont des physios, ils ont des massos, ils ont tout ce qu'ils veulent. Puis même là, ils se blessent, alors que nous, dans les mineurs, c'est les jeunes ont peur d'aller voir le physio justement parce qu'ils veulent pas avoir une mauvaise réputation. Tu te bats contre tes coéquipiers, là. Je veux dire, dans les majeurs, c'est un petit peu différent, mais dans les mineurs, t'espères quasiment là, que ton coéquipier va moins bien pour que toi, tu puisses jouer et vice-versa. Donc, je suis tellement content que les joueurs se battent, mais tu sais, qu'ils se battent vraiment beaucoup pour qu'ils traitent les joueurs des mineurs un peu mieux parce que, tu sais, les ligues majeures, ils se sont toujours foutus, là, carrément, des joueurs dans les mineurs, là, mais vraiment toujours. T'sais, on avait hâte qu'un gars des majeures se blesse pour qu'il vienne jouer avec nous et qu'il nous achète de la bouffe, là, parce que c'était ça qu'il faisait. Là. On espérait qu'il reste avec nous là, une semaine. Là, fait que, on avait du steak et du poulet après le match parce que bon, les gars des majeures nous payaient tout ça. Fait que, on avait hâte à ça là, pour que notre vie soit meilleure au moins pendant quelques jours pendant que ces gars-là venaient avec nous.
Est-ce que tu y crois? On entend que la saison ne commencera pas à temps. Est-ce que tu y crois à ça? Parce qu'il y a des joueurs qui font des millions et des millions qui ont clairement dit que si les joueurs offraient la même chose, si les propriétaires offraient la même chose, que les joueurs accepteraient, est-ce que tu crois qu'ils vont être capables de se battre là, justement à cause de cette différence-là en salaire, puis que les plus vieux, ben ils veulent leur argent, puis les plus jeunes, ben ils en veulent un peu plus aussi?
Ben, écoute, j'espère vraiment que les joueurs vont continuer à se battre. J'espère qu'on va donner plus d'argent aux jeunes joueurs parce que, tu sais, la MLB maintenant, je veux dire, dès que tu finis tes premiers 6 ans, si tu es un joueur moyen, ils vont prendre un joueur qui coûte salaire minimum au talent égal. Les équipes s'en foutent, là. Ils envoient les gars des mineurs après que tu aies 2 bonnes sorties parce que tu as lancé 2 jours de suite. Tu sais, je me rappelle, lorsque j'étais avec les Blue Jays, on avait eu un lanceur qui arrivait des mineurs. Notre partant, Estrada, il a lancé même pas une manche. Lui arrive, il lance 6 manches des mineurs, man. Le gars, il a une très belle sortie, il mérite de rester. Après la game, on va le voir et dire, hey, merci beaucoup. On va amener quelqu'un d'autre. Tu nous as donné tu nous as donné plus de qu'est-ce qu'on voulait. Tu sais, le gars, il mérite pas ça, mais bon, on va amener quelqu'un d'autre avec un bras qui va être frais. Puis lui, ben, on checkera là, si tu montes plus tard. Tu sais, c'est difficile. C'est difficile pour les jeunes joueurs. Il y a des gars qui font tellement bien dès le début. La ligue est plus jeune. Puis tu attends 3 ans avant de te faire payer. Tu sais, contrôler aussi leur temps. Tu sais, on se rappelle de Chris Bryant là, qui il avait frappé quasiment 500 pendant le spring training. Puis on lui dit, bon, on va attendre un mois. Tu sais, même un petit peu la même chose avec Vlad. Acuna, c'est arrivé la même chose. Donc, Les joueurs, je suis content que les joueurs ils se battent. Je suis content qu'enfin quelqu'un met. Tu sais, c'est plate, là. C'est plate pour tous nous autres. On veut du baseball, on veut que ça marche. Tu sais, tout le monde a envie là, que le baseball recommence. Mais je dois dire que les joueurs étaient tannés. Là, même quand j'étais avec les Blue Jays, là, puis on avait les réunions là, avec l'association des joueurs. Les joueurs, ils se plaignaient, là. C'était tough, là, ces réunions-là. Puis les joueurs n'étaient pas gênés de dire leur façon de penser, là.
OK, mais c'est bon à savoir. On ne l'entend pas souvent nécessairement que les joueurs peuvent réagir comme ça, là.
Mais surtout que c'est une ligue qui est en santé. Tu sais, le
Ouais.
baseball majeur, oui, bon, ils trouvent qu'il y a moins de. Ils ont un target cible un peu plus vieux, que la génération qui suit le baseball est un peu plus vieille. Mais moi, je me promène dans les stades aux États-Unis, là, puis il y en a beaucoup de jeunes, là. Tu sais, au jeu, tu l'as fait avec les Blue Jays, là, il y en a des jeunes dans les estrades, puis c'est une roue qui va tourner parce que il y a des millions de jeunes qui jouent au baseball aux États-Unis, puis qui jouent de catégorie U2 à U18, là, tu sais, fait que tout le monde suit le baseball, puis tout le monde y va. Fait que je voudrais t'entendre aussi sur l'esprit, la différence entre un joueur qui est des mineurs et un joueur qui est dans le baseball majeur, au niveau du team spirit dans le locker room. J'imagine qu'il y a une grosse différence où ce que t'as le jeune qui veut monter, puis que quand t'arrives dans le baseball pro, le gars veut un peu plus gagner que monter. Si tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu avais vu comme différence.
Ben, c'est certain, comme j'expliquais tantôt au début, dans les mineurs, là, ton seul et unique but, c'est plate ce que je veux dire, mais c'est, les gars, je vais être très honnête avec vous autres, c'est la pure vérité, c'est de rendre des majeurs. Je veux dire, la différence entre les ligues mineures et les majeures n'est même pas comparable. C'est le jour et la nuit, là. C'est malade, là. C'est une Ferrari comparée à une Civic, là. C'est complètement différent. L'esprit d'équipe dans les mineurs, là, la seule fois que j'ai senti vraiment qu'on jouait pour une équipe, c'est lorsque ton équipe arrive dans les playoffs. J'ai eu la chance de faire les playoffs là, deux, trois fois dans les mineurs, surtout quand j'étais avec les Red Sox. Puis c'est là que là, on joue en équipe. C'est là que le coach, j'ai vraiment l'impression qu'il coach. Pendant la saison, on savait carrément qui allait lancer. On savait que le lanceur est partant, on savait que c'était qui le premier releveur, c'était qui le deuxième releveur. On le savait, là. Des playoffs, c'était zéro de même. C'est là que, bon, on avait un autre entraîneur qui venait avec nous pendant les playoffs. On avait un autre trainer. T'sais, là, tu voyais qu'on se sentait un petit peu plus important. Mais pendant la saison, c'était zéro de même. Tandis que dans les ligues majeures, ben, à part peut-être le jeune, là, que c'est sa première année, que bon, lui, il a peur d'avoir un 0 en 4 parce qu'il a peur de se faire descendre. Ou même le gars qui, comme je viens de te dire, qui lance 5 manches, qui vient d'arriver quasiment là, au terrain à 5 heures, puis la game a commencé à 7, là, tu sais, qui veut vraiment là, penser à lui un peu plus. À part ça, là, les gars veulent gagner. Tu sais, les gars, là, surtout les joueurs que ça fait un peu plus de temps, là, tu sais, les vétérans qui ont déjà fait de leur argent. Puis ils ne meurent que pour gagner, là. T'sais, surtout des gars qui ont déjà gagné la Série mondiale puis qui expliquent aux autres, hey, vous savez pas à quel point que c'est malade. T'sais, le baseball, c'est quand même 162 matchs, là. Je veux dire, tu passes du temps, mais vraiment beaucoup de temps avec tes coéquipiers, là. C'est à tous les jours, là. T'sais, au hockey, au football, tu peux retourner chez vous, là. Il y a t'as des jours off. Il y a t'as des jours que tu bois pas, là. T'as tes coéquipiers, nous autres, c'est day in, day out. Et l'esprit d'équipe, Max, comme tu dis, est tellement importante, là. Tu es avec ces gars-là tout le temps, là. Tu connais tout sur tes coéquipiers, là. Tout, là. Comment ça va avec leurs femmes, leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, où est-ce qu'on s'en va, à quelle ville qu'on aime si, quel joueur qu'on a affronté. Tu sais, c'est tellement aussi multiculturel, là. Je veux dire, t'apprends à connaître tellement de choses dans les majeures que les gars sont vraiment liés, là, t'sais, sont vraiment connectés, tandis que dans les mineurs, je me rappelle encore avec les Pirates, là, il y avait des gars qui se rappelaient même, mais en fait, qui savaient même pas le nom. Il y avait des lanceurs qui savaient pas c'était quoi le prénom de notre troisième but, ou notre troisième but savait pas c'était quoi le prénom du champ droit, parce que ils s'en foutaient carrément. Absolument.
Ils espéraient juste qu'un cœur se blesse ou qu'il performe moins bien en haut et qu'il puisse monter.
Il puisse monter. Ils savaient c'était qui le troisième but dans le draw, mettons.
C'est ça.
Ouais. Les gars étaient dans leur fort, puis après les games, mais tu sais, c'est de la vérité, les gars. Les gars,
ouais.
Après la game, ils allaient voir, mettons, le score du draw. OK, Max Orkesson, troisième but, OK, 0 en 4. Moi, 3 en 4, ça va mieux, peut-être que tu sais. Mais c'est la vérité, les gars, c'est comme ça, là.
C'est triste. Hey, t'as vécu avec les Pirates dans les ligues mineures. T'as vécu avec les Red Sox. Je lis des articles, puis il y a beaucoup de monde qui bâche ce qui se passe avec les Pirates dans les ligues mineures, tout ça. J'aimerais ça. Y avait-tu une si grosse différence que ça entre les Red Sox et les Pirates au niveau de la culture, au niveau de l'entraînement, au niveau du traitement des joueurs? As-tu senti ça, toi, ou pour toi, là, c'était comme 2,25 cents, c'était pareil, il n'y avait pas de différence?
Malheureusement, il y avait une très grosse différence. Okay. Très, très grosse différence. Puis, tu sais, je veux pas bâcher les Pirates. C'est juste que tu me poses la question. Puis, encore une fois, c'est très honnête. Avec les Pirates, je sentais que c'était difficile pour les Pirates dans le sens que ils cherchent tellement des façons de développer leurs joueurs puis d'être différents parce que, tu sais, quand ça marche pas, tu essaies de quoi de nouveau, là? Je veux dire, quand tu gagnes pas du tout, c'est sûr, quand tu vends tous tes joueurs, tu peux pas être bon, là, non plus, là. Donc, dans les mineurs, c'était vraiment très méthodique. C'était vraiment, je dirais pas une dictature, mais presque. Tu sais, on nous obligeait à faire des choses que tu ne fais pas dans les ligues majeures. Je vais donner un exemple facile. Ma deuxième année avec les Pirates dans le A, on était obligé de commencer toujours notre, un at-bat contre un frappeur. C'est quand je catchais avec une rapide. C'est obligé. Je veux dire, après deux semaines, toutes les équipes se sont rendues compte, là, que tu commences 100% du temps avec une rapide. Je veux dire, comme frappeur, qu'elle soit in ou out, là, tu te parques sa rapide, tu le sais qu'il n'y a rien d'autre. À 0-2, on était obligé de lancer une slider ou une rapide haute. Encore une fois, comme frappeur, tu as 50% des chances. Tu t'en rends compte, je me rappelle, Travis d'Arnaud, je pense qu'il a frappé comme 10 circuits contre nous autres en un an, là, parce qu'il savait que c'était une rapide, le premier pitch. Fait que c'était très méthodique. T'sais, tout était contrôlé. Ils voulaient que tout le monde frappe d'une façon. Ils voulaient que tout le monde catch d'une façon. Tout était vraiment trop contrôlé. Tandis que quand je me suis fait échanger aux Red Sox, je m'en rappelle, quand j'ai été assigné là, au AFOR, notre hitting coordinator, donc le coordinateur au bâton, était là. Puis j'y ai demandé, c'est quoi la philosophie ici? T'sais, c'est comment vous voulez que... Puis il me dit, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est que ton uniforme soit vraiment clean, que tes souliers soient shiny, puis quand tu arrives au bat, je veux que tu te sentes comme si tu étais au Fenway Park. Je veux que tu aies l'air d'Ortiz, je veux que tu aies l'air de Pedroia, je veux que tu aies l'air bien. Je veux que l'autre bord, là, il sente que t'es en contrôle. Là. Je veux qu'ils fassent comme, OK, là, lui, là, il est bon. C'est tout ce qui se concentrait. T'sais, il voulait que tout le monde soit à l'aise. Il voulait que tout le monde soit bien. Je me rappelle, avant de rentrer au match, mettons, la game était à 7 heures, puis on jouait à la maison, il fallait se rendre un cage à 6h30. Ça s'appelait Highway to Fenway. Fait que, c'est ce qui va t'amener au Fenway Park. Fait que, elle va frapper, va prendre une ou deux rondes avant la game juste pour te dire OK, I'm looking good avec ton uniforme, t'es bien habillé. Il voulait vraiment pas que notre uniforme soit sale. Il voulait qu'on a l'air tout sharp. Puis tout ce qu'il voulait, c'est de dire, regarde, laisse ton talent jouer. Si jamais tu te pètes la gueule un peu, là, nous, on va venir t'aider, mais sinon, t'es ici pour une raison. T'sais, on t'a drafté pour une raison, on t'a signé pour une raison. Montre-nous là, qu'est-ce que tu es capable de faire, puis on s'arrangera après. T'sais. Fait que lui, là, il voulait là, qu'on se sente bien. Puis tu le vois, les jeunes qui se rendent là, avec les Red Sox, on dirait que dès qu'ils arrivent, ils sont bons right away. Là. Ils sont bons tout de suite. Fait que c'était une grosse différence, man. Tu voyais que la culture de gagner, on dirait que c'était imprimé. On dirait que même quand tu arrives au locker room là, avec les Red Sox, tu le voyais. Que tout était plus calme, que tout était comme plus relax. Je ne sais plus si c'est rendu comme ça encore avec les Pirates, là. Je vais être honnête, mais en tout cas, c'est certain que ça ne doit pas être très facile là, de leur côté encore.
Mais ça reste que c'est un message important à tous les entraîneurs qui nous écoutent. Deux choses que je retiens. Le cookie cutter, le moule, ça n'existe pas pour un joueur. Tu ne peux pas prendre un moule et dire « Mes 22 joueurs, là, ils fitent dans ce moule-là. » Non, c'est la pire façon de coacher. Puis la deuxième chose, c'est de ne pas rendre tes joueurs dépendants de ton feedback. Ça veut dire qu'un gars prend un swing et il te regarde, c'est quoi, pipipi, mes mains ici. Mais non, ben non, man, arrête d'être dépendant de mon feedback. Auto-analyse-toi, comment tu te sens, es-tu dans une bonne séquence? J'ai pas besoin d'intervenir quand tu es dans une bonne séquence. Si tu tombes, si tu te casses la gueule, je vais être là pour te relever et t'aider. Fait que c'est deux leçons hyper importantes. Puis si tu regardes au nombre de World Series, les Red Sox en ont pas mal plus que les Pirates, ont pas mal plus de succès. Pourquoi? Parce que je suis pas mal convaincu que c'est relié à ces deux items-là qui sont importants. Il n'y a pas de moule qui existe. Puis tu ne rends pas tes joueurs dépendants du feedback. Pour moi, c'est clair. Puis c'est ça dans n'importe quel aspect, dans n'importe quel sport. Jeff, le temps file, je pense, hein?
Ouais, mais j'allais juste ajouter, puis on peut pas parler d'argent nécessairement avec les pirates parce que les Rays prouvent qu'on peut gagner avec de l'argent puis un bon système. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça de parler des Jays, ton expérience là, puis aussi ton rôle d'entraîneur avec les Canonniers, mais on te réinvite éventuellement, puis on jasera de tout ça. Toujours intéressant. Ça passe super vite, une demi-heure. Ouais. Fait que quelqu'un qui a de l'expérience comme toi, ben c'est ça, on pourrait faire une heure facile. Merci pour ton temps ce matin. C'est super apprécié. Puis on se reparle bientôt. Bonne Saint-Valentin, les gars.
Merci.
Hey, merci, guys. Salut, Max.
Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.